Mesdames, messieurs, si j'applique une règle graduée sur la carte, je vois qu'il y a à vol d'oiseau quelque chose comme 600 km de Brest à Paris et 800 de Bayonne, de Marseille un peu moins, et qu'enfin de Lausanne, d'où je viens, il n'y en a même pas 500. De sorte que Lausanne est sensiblement plus rapprochée de la capitale de la France que beaucoup de villes françaises. Mais à peine est-on monté dans le train qu'on le voit qui s'arrête dans une petite gare, posée juste au pied du Jura, du côté du Levant. Et il passe toute une grande demi-heure à attendre patiemment qu'aient pris fin les fameuses formalités douanières, chaque jour plus compliquées, qui marquent dans notre Europe moderne le passage d'un État à un autre. C'est donc qu'entre vous autres Français et nous autres Suisses romands, il y a une frontière. Et j'ajoute tout de suite que la frontière qui nous sépare de vous n'est pas simplement théorique. Ce n'est pas seulement une ligne arbitraire tirée au milieu d'une vaste plaine par un quelconque traité de paix, comme il y en a tant. C'est une frontière qui est visible de très loin, qui parle aux yeux, qui est géographiquement constituée par une chaîne de montagnes assez élevée, laquelle semble même n'être là que pour remplir son rôle de frontière, tellement sa crête à mi-ciel est continue, régulière, monotone, toute pareille de profil à une gencive sans dents. On monte à travers un beau pays mamelonné, d'où peu à peu on se met à dominer le lac, qui est bleu, dans la profondeur comme un morceau du ciel tombé. On continue à s'élever et à planer au-dessus du vide. Tout à coup, on bute à ce pied de montagne percé d'un tunnel qui vous dit « Halte! » On ne passe pas sans avoir montré ses papiers. Le petit pays d'où je viens, et qui est donc situé de l'autre côté du Jura, ne compte guère que 900 000 habitants. Il s'appelle la Suisse romande. On le nomme aussi Suisse française. Française est une épithète beaucoup plus claire, en ce qu'elle indique du moins que c'est un pays où on parle le français. Mais romande sert sans doute à distinguer l'indépendance politique où il est vis-à-vis de la France. Et on ne saurait pas très bien ce qu'elle veut dire, cette seconde épithète, car roman, sans D, marquerait du moins son appartenance aux autres pays de langue latine ou romane, mais il y a ce D, cette terminaison en D, dont personne n'a pu expliquer d'où elle venait, ni ce qu'elle signifiait. Quoi qu'il en soit, la Suisse romande est constituée par 5 ou 6 petits États, c'est-à-dire par 5 cantons autonomes et un demi-canton, dont chacun a sa législation particulière, ses écoles, sa gendarmerie, chacun son conseil d'État, qui est une façon de conseil des ministres au petit pied, chacun son grand conseil, qui est une manière de parlement miniature. Vous voyez tout de suite que non seulement cette Suisse romande est minuscule, mais qu'elle est subdivisée en plusieurs républiques dont chacune se régit à sa guise et qui sont encore séparées par toutes sortes de différences dues au climat, aux cultures, à l'histoire, à la religion. On a dit que la Suisse, dans sa totalité, était à la fois une et diverse. Je pense qu'on peut dire de la Suisse romande qu'elle est diverse sans être une, puisque le lien qui tient, réunit les différents cantons de Suisse n'est intercantonal que parce qu'il est fédéral. Le canton de Fribourg a toujours été l'allié des Suisses. Le canton, ou pays de Vaud, d'où je viens, a dépendu au contraire pendant des siècles d'une maison rivale de celle des rois de France, la maison de Savoie. De sorte que, tandis que les cantons suisses-allemands combattaient aux côtés des rois de France, il figurait dans le parti adverse, d'ailleurs très pacifiquement. Ce n'est qu'au commencement du XVIe siècle et à l'époque de la Réforme qu'il a été conquis définitivement par les Bernois. Et c'est ici qu'ont commencé à s'accuser nettement les différences qui le séparent de certains cantons limitrophes, comme Fribourg et le Valais, parce que la conquête bernoise a fait qu'il est devenu protestant et qu'eux sont restés catholiques. Il est devenu protestant sans trop le vouloir, ni trop le savoir, et sous la pression sans doute de son envahisseur bernois, mais qui a su apporter toute espèce de précaution et de lenteur à le convertir, si convertir est bien le mot. L'invasion du pays de Vaud date de 1536. Or, on a dit la messe dans certains villages vaudois jusque vers 1580. Certains autres villages vaudois, mais qui étaient sous la dépendance de Fribourg, sont même demeurés catholiques. Le catholicisme y est resté jusqu'à aujourd'hui la religion d'État, et il se trouve que les curés en sont payés par le gouvernement vaudois officiellement protestants. Il y a même, ou il y avait encore il n'y a pas longtemps, certaines paroisses qui étaient des deux confessions et où l'église servait tour à tour à l'une et à l'autre, le chœur étant réservé aux catholiques, la chaire et la nef aux réformés. Ces quelques précisions, mesdames, messieurs, ne sont là d'ailleurs que pour vous montrer l'extrême diversité des éléments de toute espèce dont est composée la Suisse romande. Elles ne sont là encore que pour vous donner quelques lumières sur le caractère des Vaudois en particulier, dont on ne sait pas trop le plus souvent si en matière religieuse il est fait de tolérance ou d'indifférence. Le Vaudois, et si j'en parle plus longuement, c'est que je suis Vaudois moi-même, est essentiellement attaché à son canton, plus attaché encore peut-être à ses habitudes. Il n'en change que malgré lui et parce qu'il ne s'en doute pas. Et il arrive qu'ayant passé sans s'en douter d'une religion à l'autre, comme ce fut le cas pour lui au XVIe siècle, Ce même goût de l'habitude fait qu'il s'attache pour finir tout autant à ces nouvelles croyances qu'aux anciennes, si bien que les Vaudois d'aujourd'hui seraient très étonnés si on mettait en doute leur protestantisme. Mais cette conversion quasi totale du pays a eu encore une autre conséquence, c'est que si elle nous a séparés de nos voisins suisses romans restés catholiques, elle ne nous a pas éloignés de nos voisins de France, ou enfin de l'immense majorité des Français, sans nous rapprocher beaucoup de cantons devenus protestants eux aussi, comme Genève. Genève étant une cité, et même une illustre cité, le canton de Vaud, un pays de paysans. Là interviennent d'autres oppositions, qui sont des oppositions de nature. Nos cantons, vous le voyez, sont éparses et dispersés. Le pays de Vaud est un pays de paysans et de vignerons. Il est même piquant de remarquer à ce propos qu'il est un des seuls pays de l'Europe où la vigne, si je peux dire, ne soit pas catholique. L'Alsace et le pays rhénan, quoique de langue allemande, étant catholiques l'un et l'autre. Si bien que nous autres, Suisses romands, nous ne sommes pas seulement sur la frontière d'un grand pays et en dehors de cette frontière, mais séparés les uns des autres par toute espèce d'autres frontières particulières, dont l'une, comme je viens de le dire, est religieuse. D'autres résultant du climat, du sol, de nos diverses façons de vivre. D'autres encore étant historiques, d'autres enfin linguistiques ou géographiques. Une partie de la Suisse romande se rattache en effet au domaine de la langue d'Oyle. L'autre partie à celui de la langue d'Oc. Une partie en est située dans le bassin des eaux du Rhin, l'autre dans le bassin des eaux du Rhône. Nous sommes sur toutes les frontières. Nous sommes 5 ou même 6 petits pays, car le nord du canton de Berne parle le français, qui ont chacun son chef-lieu, sa petite capitale, avec un gouvernement ou du moins une administration strictement autonome, et qui se différencient le plus possible les uns des autres pour les raisons qu'on vient de voir. Et chacun de ces petits pays est jaloux de son indépendance et de son autorité. Chacun d'eux entend se suffire, de sorte que l'ensemble de la Suisse romande, qui ne compte pas au total 1 million d'habitants, possède 4 universités. Car il y a une université genevoise, une université neuchâteloise, une université fribourgeoise, une université vaudoise. Chacune de ces petites capitales vit sa vie à sa façon et tâche de son mieux de satisfaire aux besoins particuliers du canton dont elle est le centre. Le Valais, qui est situé à la source du Rhône, n'est qu'une longue vallée profondément encaissée entre de hautes chaînes de montagnes qui atteignent 4000 mètres, toutes méridionales déjà, et provençales, et même espagnoles, où la vie a gardé jusqu'à aujourd'hui un caractère tout à fait primitif et pastoral, où les instruments agricoles n'ont guère changé depuis le temps des Romains, où on transporte encore le raisin foulé dans des outres à dos de mulets, où les populations déménagent, c'est-à-dire que selon les récoltes, et selon les saisons, elle se transporte de la plaine jusque dans la haute montagne, n'habitant guère en permanence que l'hiver, le village situé à mi-hauteur, un village qui est avant tout une paroisse, c'est-à-dire le lieu où se trouvent le cimetière et l'église, où on vient se faire baptiser, où on vient enterrer les morts. Genève, à l'autre bout du Léman, et au bord de ce même Rhône, est au contraire une cité presque dépourvue de campagne, qui a fait sa fortune dans la banque et dans l'horlogerie, une cité abstraite, une cité d'idées, une cité restée longtemps enfermée au-dedans de ses murs et qui continue à s'agiter aujourd'hui au-dedans de ces mêmes murs qui n'entourent pourtant plus. Neuchâtel, dans le nord, est un pays départagé entre les hautes vallées jurassiennes, vouées à la petite industrie et les bords de son lac où on cultive la vigne. Restent Fribourg et Vaud, qui se ressembleraient peut-être davantage, étant tous deux essentiellement campagnards, si précisément la religion n'était venue les isoler. Mais tandis que Fribourg est situé tout entier dans le plateau, Vaud magnifiquement s'étale, tourné en plein midi sur la rive nord du Léman, qui l'occupe presque en entier. Il est au bénéfice de 2 ou 3 climats, il réconcilie sur son territoire les cultures les plus opposées, il a la vigne, le pêcher, l'amandier, le figuier dans ses parties basses, en même temps que, dans ses hauts alpages, le parc d'une flore brillante, où la gentiane voisine avec le rhododendron. Il produit plus de blé, plus de vin qu'il ne lui en faut, et plus de bois et plus de lait. Il est sans doute de tous les cantons suisses celui qui mérite le plus le nom de pays. Par quoi il faut entendre qu'il pourrait se suffire et que le régime de l'autarcie, qui est à la mode aujourd'hui, lui conviendrait parfaitement. Je vous assure bien, mesdames, messieurs, que ma qualité de vaudois n'est nullement en cause dans ce que je vous en dis et que je ne mets aucune espèce d'amour propre dans ce que je vous en dis. Car vous allez voir tout de suite les restrictions qu'il convient d'apporter à ces éloges qui vous sembleront peut-être excessifs. Mais un simple coup d'œil suffit à se convaincre que le pays de Vaud est redevable à sa situation de singulier privilège sur le plan de la nature. Seulement, il n'y a pas que le plan de la nature, il y a le plan de l'esprit. Il n'y a qu'une fois que l'homme est nourri, l'homme pense. C'est là que commencent les difficultés. Nettement caractérisé comme race et en tant que cultivateur et vigneron, non moins caractérisés dans leur accent et leur allure, extrêmement fidèles comme on a vu à ce qui est leurs habitudes, très définies et sûres d'eux-mêmes, dans ce qui est la vie quotidienne, Quand il cherche à passer de là à cette région supérieure qui est celle où se forment les idées et les rapports entre les idées et leur orientation, j'entends la direction où elles vont s'engager, les Vaudois se trouvent au contraire être terriblement flottants. Ils ont une peine extrême à s'y connaître ou à s'y reconnaître même, c'est-à-dire à distinguer ce qu'ils sont. Peut-être ne sont-ils pas ou guère sur ce plan-là, ils se sont toujours laissés faire. Je n'ai pas sans raison accumulé tout à l'heure les divergences de toutes sortes qui séparent les Suisses romands, ni les oppositions qui les dresseraient sans doute les uns contre les autres, si les cantons ne jouissaient pas d'une complète liberté. Il faudrait montrer maintenant que ces mêmes divergences jouent à l'intérieur des cantons. Le jeune Vaudois, vers 20 ans, et si je m'en tiens à lui, c'est que j'ai de bonnes raisons de le connaître, est un être bizarrement départagé, j'entends tiraillé en tous sens, et en même temps, il est condamné à ne trouver de secours qu'en lui-même. Il appartient à un pays qui est resté profondément religieux, tout au moins dans ses habitudes. Il y a bien des chances qu'il ait été à l'école du dimanche. La religion qu'on lui a inculquée l'a incliné de bonne heure à l'introspection, à l'analyse, à un examen continuel de ce qu'il est, et par voie de conséquence, au souci de ce qu'il devrait être. Or, il se trouve seul en face de lui-même. Il n'a ni confesseur, ni directeur de conscience, et encore moins d'intercesseur d'aucune espèce. Il y a lui, et s'il est croyant, il y a Dieu. Il n'y a rien entre lui et Dieu. Il est protestant, mais en même temps, il parle français. Il se trouve ainsi que la presque unanimité des écrivains auxquels il peut avoir recours sont catholiques. Il parle français, mais son français à lui, tel qu'il subsiste dans le patois de son pays natal, n'est pas tout à fait le français Doyle, d'où provient la langue littéraire. Ajoutez à tout cela qu'il n'a pas un bien grand chemin à faire vers l'Est pour se trouver en plein territoire germanique, lequel n'est pas lui non plus sans exercer une certaine influence sur les régions avoisinantes, de sorte que le jeune Vaudois, dès qu'il sort de lui-même et où qu'il se tourne, se trouve dépaysé et dépatrié. Le jeune Vaudois, qui cherche à s'exprimer, car c'est de lui qu'il est surtout question, ne trouve nulle part de modèle qui lui convienne exactement. Je veux dire qu'il en trouve trop qui ne lui conviennent qu'à moitié, qu'il lui faudrait donc choisir, qu'il n'en a pas toujours les moyens et qu'il n'a surtout pas assez de confiance en lui-même pour le faire. La confiance en lui-même, voilà ce qui lui manque le plus. J'en sais, hélas, quelque chose. Et il se replie sur lui-même. Il aurait voulu parler, il se tait. Il prend l'habitude de se taire, il devient silencieux. Et c'est en silence désormais qu'il va se consacrer à ses besognes professionnelles qui ne lui suffisent pourtant pas. Alors il s'en évade pour gagner la montagne, où il va chercher à se retrouver, où il va du moins dans la solitude pouvoir se rêver lui-même tel qu'il aurait voulu être et tel qu'il n'est pas devenu. Je sais bien qu'on nous répète, à nous autres Vaudois, que nous avons une tradition, mais c'est une tradition purement religieuse, pour ne pas dire théologique, qui suppose une croyance et qui n'est même pas autochtone, puisqu'elle nous est venue de Noyon par Calvin ou d'Allemagne par Luther. Un magnifique exemple de ces incertitudes est Henri Frédéric Amiel. Et je sais bien qu'Amiel est genevois, mais le phénomène qui nous occupe présentement n'est pas particulier à un de nos cantons. Amiel éclaire d'un jour brutal le cas extrême du protestant roman, dévoré par les scrupules et chez qui le tourment de bien faire aboutit promptement à l'impossibilité de bien faire. L'impossibilité de bien faire à celle de faire tout court. Amiel est un homme qui ne se détermine à rien avant d'avoir, par l'analyse, vidé de toute vie et tout mouvement propre chacun des éléments que comporte la moindre décision à prendre, toutes les conséquences que cette même décision pourrait entraîner avec soi. Et comme ces éléments, eux aussi, sont faits d'une infinité d'éléments qu'ils s'obstinent à vouloir démêler à leur tour, la vie tout entière s'y consume. Amiel en arrive ainsi à ne plus pouvoir se rejoindre. C'est un homme complètement dédoublé. C'est un homme qui regarde un autre homme, dont toute l'occupation consiste à se laisser regarder. Un homme décidément séparé de la vie, parce qu'il est séparé de lui-même. Un homme qui était peut-être aimant, qu'il était à coup sûr, mais que l'introspection a fini par priver des épanchements magnifiques et des apparentes injustices de l'amour qui sont peut-être la vraie justice. Car, Dostoïevski qui l'a dit, vous n'avez pas de tendresse, vous n'avez que la justice, par conséquent, vous êtes injuste. Ramu, une province qui n'en est pas une.